Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier et détour cette fois-ci du côté du Royaume-Uni. Le 6 mai prochain, l'Écosse se rend aux urnes. Le portrait n'est pas très rose pour les souverainistes de la première ministre Nicola Sturgeon. Une opposition frontale de Londres, à toute velléité d'indépendance, des sondages défavorables, un scandale sexuel et une loi sur les discours haineux décriés de toutes parts, tout cela rend l'atmosphère politique extrêmement lourde. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, nous donne le détail de cette situation. Pierre, bonjour.
Bonjour.
On est toujours sensible au Québec à ce qui se passe dans d'autres petites nations européennes, la Catalogne, la Flandre éventuellement, l'Écosse à coup sûr. Les souverainistes écossais semblent ne pas avoir le vent en poupe, en tout cas.
En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que les souverainistes écossais, depuis leur défaite au référendum du 18 septembre 2014 sur l'indépendance écossaise, ils avaient réussi à se maintenir au pouvoir. Ils avaient été réélus en 2016. Et ils avaient réussi aussi à maintenir la pression sur le gouvernement central britannique. La première ministre, Nicola Sturgeon, qui est également la chef du Scottish National Party, le SNP, qu'on peut dire le Parti national écossais, qui forme un gouvernement minoritaire, milite en faveur d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Et ça fait un an que l'appui à l'indépendance est majoritaire en Écosse, selon les sondages, à la suite du Brexit, auquel s'opposaient les Écossais en majorité. 62% des Écossais avaient voté contre le Brexit lors du référendum en 2016. Mm-hmm. Et donc, en raison de ces pressions-là, plusieurs laissaient entendre que c'était peut-être une question de temps avant que Londres finisse par céder sous la pression et autorise un second référendum sur l'indépendance écossaise.
Mais ce n'est pas le cas.
Non, c'est ça, exactement. Les tuiles ne cessent de tomber sur la tête de Nicola Sturgeon et ça commence à se faire ressentir dans les sondages. En mars, l'appui au oui sur l'indépendance écossaise est repassé sous la barre des 50%. Et tandis que le SNP, il jouit encore d'une forte avance sur les autres partis, les conservateurs et les travaillistes en particulier. Mais il a néanmoins reculé de près de 10 points depuis l'automne. Je rappelle qu'il est toujours bel et bien en avance, mais c'est un net recul néanmoins. Et ces données-là sont importantes, considérant que, comme vous l'avez dit, le 6 mai prochain, les Écossais iront aux urnes.
Londres, Londres s'oppose frontalement donc à toute velléité d'indépendance. C'était pas le cas lors du premier référendum, non?
En effet, le Royaume-Uni avait consenti à la tenue d'un référendum. Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que le Royaume-Uni, contrairement au Canada, n'est pas une fédération. C'est un État unitaire, c'est-à-dire que la souveraineté réside entièrement dans le Parlement central à Londres. Bien sûr, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord possèdent bel et bien un Parlement puis une autonomie relative, mais c'est parce que le Parlement britannique en a décidé ainsi dans les années 90 sous Tony Blair. Et le même Parlement est toujours loisible. Il est toujours loisible au même Parlement de revenir sur sa décision et de fermer, si je peux dire, les parlements régionaux.
Alors, j'imagine que Londres, c'est un peu comme Madrid en Espagne avec le référendum catalan. Je veux dire, la tenue d'un référendum, c'est Londres qui donne un feu vert ou non. De même que Madrid.
Ouais, tout à fait. Le parallèle avec l'Écosse est très pertinent. C'est en effet Londres qui doit autoriser la tenue d'un référendum. Et donc, il l'avait accepté en 2014. On pepeut comprendre que, David Cameron, à cette époque-là, avait déjà dans ses cartons l'idée de peut-être tenir un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc, il a fallu légitimer le processus. Et il reste que, oui, il s'était entendu avec l'Écosse à ce moment-là. Mais les Écossais ayant tranché, maintenant, Londres ne veut plus rien savoir d'un second référendum.
Oui, vous l'avez raté une fois, donc il faut attendre au moins 30 ou 50 ans avant de recommencer, peut-être. Est-ce que Londres fait quand même les yeux doux à Édimbourg? Est-ce que Londres offre des bonbons pour calmer un peu la grogne souverainiste?
Oui, ça c'est certain parce que, bon, on vient de le dire, le gouvernement Johnson martèle qu'il n'est pas question d'avoir un second référendum. D'ailleurs, Johnson prend lui-même au mot les souverainistes qui, pendant leur campagne référendaire, avaient dit que c'était l'occasion pour une génération, ça se produirait une seule fois dans une vie. Johnson, maintenant, il essaie de les rappeler à l'ordre là-dessus. Et oui, il essaie de distribuer des avantages en Écosse, là. C'est un peu l'espèce de patronage du gouvernement central là, qui va distribuer les avantages et les investissements un peu partout en espérant calmer la grogne. Et Johnson, oui, lors de ses différentes annonces officielles depuis un certain temps, il ne manque pas de mentionner les avantages directs de telle ou telle politique mise en place par le gouvernement britannique pour l'Écosse. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement britannique a annoncé un transfert de 660 millions de livres sterling au gouvernement écossais afin d'investir davantage dans le système de santé et dans les services sociaux. Mm-hmm. Et ce qui réserve à l'Écosse seule, la moitié du montant d'un programme d'aide financière, c'est quand même énorme. Et très récemment aussi, le gouvernement Johnson a annoncé une importante modernisation de la politique et des moyens britanniques de défense et de sécurité. Il n'a pas manqué de souligner les retombées économiques qui vont en découler pour l'Écosse, qui abrite une importante base de la Royal Air Force, donc l'aviation britannique. Il y aura des nouveaux chasseurs, des nouveaux matériels de défense aérienne qui va être achetés. Il va y avoir des dépenses en recherche et développement. Donc, Johnson n'a pas manqué de souligner que ça allait profiter à l'Écosse. Donc, en somme, on peut dire que le gouvernement britannique en ce moment est en mode de séduction. On peut voir, il reste à voir à l'avenir, parce que généralement, dans une telle situation, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. Si les Écossais ne calment pas leur velléité d'indépendance, il faudra voir si là, les Anglais ne vont pas aussi sortir le bâton. Mais pour l'instant, ils en sont à la carotte.
Entre-temps, puisque l'indépendance est mise sur la glace, est-ce que le gouvernement écossais a d'autres chats à fouetter? Est-ce qu'il porte son attention sur d'autres dossiers?
Oui, en fait, il continue à essayer de maintenir la pression pour la tenue d'un référendum, mais on comprend bien que ça n'arrivera pas, en tout cas avec une entente avec le gouvernement anglais, le gouvernement britannique plutôt. Mm-hmm. Et le gouvernement écossais consacre ses énergies à d'autres enjeux. C'est un parti qui a toujours été classé comme un parti social-démocrate et progressiste, pro-environnement, un peu syndicaliste. Mais depuis l'arrivée de Mme Sturgeon à sa tête, le SNP a pris fait et cause pour certaines revendications de la nouvelle gauche, celle qui fait un grand bruit un peu partout en Occident là, récemment, notamment sur les campus et dans les médias.
Les woke, par exemple?
Exactement, oui. Et bon, le 11 mars dernier, après des débats très tendus qui ont duré plusieurs mois, le gouvernement du SNP a réussi à faire adopter au Parlement écossais une loi qui combat toute forme de discours haineux. C'est un projet de loi très controversé. Une première version avait été déposée en septembre dernier. Elle avait été retirée parce que ce projet de loi-là avait été trop critiqué. Mais donc maintenant, oui, ce projet de loi a été adopté le 11 mars. Et on dit là-dedans que tout discours qui serait haineux ou discriminatoire sur la base de l'âge, d'un handicap, de la religion, de l'orientation sexuelle et de l'identité de sexe ou de genre. Toute discrimination ou discours haineux là-dessus, ça peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à 7 ans.
Donc, si vous dites à quelqu'un, un homme blanc, hétérosexuel, chrétien, tout cela en pleine figure, vous pouvez faire de la tôle pour 7 ans ou c'est la seule catégorie qui est exclue, comme d'habitude, des revendications woke?
C'est exclu. Puis une des critiques aussi, c'est que les groupes féministes ont aussi voulu inscrire les femmes parmi
victimes, oui.
Les victimes potentielles, et ça n'a pas été fait. Donc ce projet de loi-là est critiqué aussi du point de vue des défenseurs d'une interdiction des discours haineux. Mais il est surtout critiqué par les défenseurs de la liberté d'expression en ce moment, parce que la notion de discours haineux, et c'est une notion qui est extrêmement vague, qui n'est pas très bien définie par la loi.
Elle est surtout hyper morale, et là, quand on parle d'hyper morale, il faut avoir un hyper dogme qui va avec.
En effet, et là, on voit la quantité d'organisations et d'institutions en Écosse qui s'opposent à cette loi-là. La Law Society of Scotland, qui est leur équivalent du barreau là-bas, s'est inquiétée d'une grave dérive qui viendrait menacer la liberté d'expression. Il y a aussi la Fédération des policiers écossais qui s'inquiète et qui a déclaré ne pas vouloir se transformer en police de la pensée ou en police du langage.
En plus, c'est le problème des policiers un peu partout dans les pays où ces lois anti-haine fleurissent. Je veux dire, les policiers sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils doivent instaurer un ordre, une règle. Ils doivent quelquefois donner des gourdins, en tout cas donner des contraventions, critiquer, arraisonner, bref, verbaliser. Je veux dire, évidemment, ça devient extrêmement délicat selon la clientèle ou la personne qui est visée.
Ben, tout à fait. Et il y a un paquet d'autres institutions qui se sont joints à ça. Ben, d'abord, en termes d'institutions, c'est plutôt un parti politique, mais au Parlement écossais, le Parti conservateur s'est opposé au projet de loi. Mais en dehors du Parlement, dans le monde religieux aussi, l'Église catholique, l'Église libre d'Écosse, qui est presbytérienne, et aussi, à l'inverse, la Scottish Secular Society, qui milite pour la séparation de l'Église et de l'État en Écosse, ils ont tous fait valoir que la définition de crime haineux ou de discours haineux dans le projet de loi était très vague et que ça pouvait, en fait, que ça allait nécessairement mener à des dérapages importants en risquant de condamner d'avance tout discours qui n'irait pas dans le sens du progressisme ambiant ou de la cause victimaire du moment.
C'est drôle, on se croirait en Chine, mais à l'opposé du spectre politique.
Oui.
Vous nous parlez des difficultés des souverainistes en Écosse, Pierre Norris. Je rappelle que les Écossais iront aux urnes le 6 mai prochain et les souverainistes mènent quand même dans les sondages, mais ils ont eu un sacré recul de 10 points récemment depuis l'automne dernier. Il y a aussi une bisbille entre au plus haut niveau du parti, non, du Scottish National Party.
En effet, le SNP est lui-même pris dans un scandale sexuel dont il se serait très bien passé, je crois. C'est l'ancien premier ministre Alex Salmond, celui qui dirigeait le gouvernement écossais au moment du référendum et qui avait démissionné après son échec en 2014. Ouais. Il avait quitté la vie politique en 2018 alors qu'il avait été ciblé par des allégations d'agression sexuelle. Qui se serait déroulé en 2013. Il a dans un premier temps été blanchi par un processus d'enquête interne du Parlement. Ensuite, il y a des accusations qui ont formellement été portées contre lui, des accusations d'agression sexuelle en 2019, avec 14 chefs d'accusation. Wow. Et il a ensuite été déclaré non coupable devant la Haute Cour de justice écossaise en 2020. Si je ne me trompe pas, il y a 12 chefs d'accusation pour lesquels il a été déclaré non coupable. Il y a un chef qui a été retiré et un 13e où sans être déclaré non coupable, le 14e, pardon, on a dit que bon, on n'avait pas les preuves pour aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, bon, il a été, dans un certain sens, blanchi. Et Salmond, il prétend maintenant que ces accusations-là seraient le fait d'une machination de Nicola Sturgeon et de son entourage pour ruiner sa carrière politique à lui et l'empêcher de potentiellement revenir au devant de la scène.
Ben, c'est un vieux classique. Quand vous n'aimez pas votre opposant, ben, vous dites « oui, mais il y a 5 ans, il y a quelque chose qui s'est passé », puis il y a quelqu'un qui sort du placard et qui dit « oui, il m'a touché le ceci, il m'a fait le cela, ou il m'a fait un sourire, ou que sais-je ».
C'est ça. Et Sturgeon, il faut aussi rappeler que Sturgeon a longtemps été le fidèle numéro 2 de Alex Salmond avant de lui succéder en 2014 et de prendre son indépendance face à lui.
Et bon, donc, Salmond, ce serait plausible qu'elle veuille dépasser le maître et puis l'écraser complètement. Ça serait plausible, je ne sais pas prouver.
C'est ça, exactement. Et Alex Salmond n'a pas vraiment de preuves pour en avançant ces allégations-là, exact, lui, de son côté. Et bon, les accusations qui avaient été portées contre lui étaient quand même aussi assez graves. Là, on parlait de ce qui aurait forcé une femme à avoir des rapports sexuels avec lui dans la résidence officielle du premier ministre écossais. Et bon, il y a toutes sortes de choses liées à ça aussi, mais dans tous les cas, ça n'a pas pu être prouvé. Et maintenant, Sturgeon, elle est confrontée en commission d'enquête parlementaire depuis plusieurs semaines. Elle a été accusée par les partis d'opposition d'avoir menti au Parlement en lui cachant son propre degré d'implication ou de connaissance dans les diverses étapes du processus de l'enquête interne qui entourait Salmond. Et le comité parlementaire a tranché à majorité, en suivant les lignes partisanes, que Sturgeon avait menti au Parlement, mais tandis que suite à ça, il y a un rapport d'enquête indépendant qui a établi plutôt que non, la première ministre n'avait pas menti au Parlement et non, elle n'était pas au courant des différentes étapes de l'enquête interne et de son évolution. Malgré tout, le Parti conservateur a quand même déposé une motion de non-confiance mardi et à l'endroit de Mme Sturgeon. Mais celle-ci, elle a remporté le vote de confiance parce que le SNP est minoritaire, mais elle a réussi à obtenir l'appui des députés du Parti vert. Donc, le gouvernement Sturgeon réussit à se maintenir pour l'instant.
Le SNP, le Scottish National Party, c'est l'équivalent du Parti québécois, en fait, mais en Écosse, le Parti national écossais, qui était dirigé auparavant par Salmond et actuellement par Nicola Sturgeon. C'est intéressant, un petit jeu de mots un peu bébête. Salmond, enlever le D de Salmond, ça donne saumon, et puis Sturgeon, c'est esturgeon. Donc, dans l'aquarium, il n'y a pas de chicane en cabane, mais c'est la chicane dans l'aquarium. En tout cas, j'imagine que ces accusations mutuelles, ça fait le jeu de Londres. Londres doit être absolument ravi que les forces souverainistes écossaises se neutralisent l'une l'autre autour d'une question de sexe.
Ça, c'est certain. Et on peut combiner ça avec ce scandale sexuel-là à la crise qui entoure la loi sur les discours haineux. Tout ça est venu mettre très certainement du plomb dans l'aile des souverainistes. Et d'autant plus que, pas concernant le scandale sexuel, mais concernant la loi sur les discours haineux, ça fait déjà un certain temps aussi qu'il y a des gens qui disent que le SNP est trop à gauche, que c'est pas vrai qu'on a besoin d'être à gauche pour être un vrai Écossais. On connaît ces débats-là ici.
Mais justement, Pierre Norris, j'imagine que les indépendantistes écossais du Scottish National Party font la même erreur que les péquistes, qu'un peuple se définit par son côté social-démocrate, progressiste, égalitaire et tout ça, alors qu'un peuple n'est ni à droite ni à gauche. Un peuple est un peuple avec une histoire, des personnages légendaires, mythiques, réels, plus ou moins réels. Enfin, il y a un discours national n'est ni à gauche ni à droite, en principe.
Tout à fait. Et c'était l'une des choses qu'on avait pu remarquer, d'ailleurs, avec le SNP lors du référendum sur l'indépendance écossaise. Tout avait été mis de l'avant pour montrer que l'Écosse serait un paradis social-démocrate et progressiste. Voilà. Il y avait une vision très multiculturelle et de la nation. On parlait d'un nationalisme civique. Donc oui, ils sont allés à fond la caisse sur cette voie-là. Mais il y a aussi des gens qui essaient de rappeler que on peut être écossais tout en étant de droite ou plus conservateur. Et ça, c'est un peu l'angle mort du souverainisme écossais pour l'instant. Et on le voit en ce moment avec la loi sur les discours haineux. Ils sont en train de s'aliéner un certain nombre d'électeurs, d'autant plus que les sondages montrent que près du 2/3 de la population écossaise n'est pas favorable à cette loi-là sur les discours haineux.
Pierre Norris, les Québécois souverainistes suivent-ils ce qui se passe en Écosse? Et si oui, il y a vraiment de quoi s'inspirer. Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire.
C'est ce qu'on pourrait se dire, en effet, a priori, mais c'est certain que les souverainistes québécois suivent ça, mais on a vu très récemment, cette semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui avait annoncé son appui à nouveau au SNP en espérant la tenue d'un second référendum. J'ai l'impression que, et surtout si je me rappelle mes propres souvenirs, là, en voyant bon nombre de militants péquistes, des députés et autres qui avaient fait un voyage, si on veut, en Écosse comme une délégation pendant le référendum. Tout le monde revient d'Écosse un peu en disant, il faut s'inspirer de ci, il faut s'inspirer de ça. Et là, le Parti québécois cherche à nouveau à s'allier avec le SNP. Je peux comprendre tout à fait qu'on peut s'étudier les cas comme ceux-là à l'étranger pour s'en inspirer positivement ou négativement, là, voir ce qu'on peut récupérer, ce qu'il ne faut pas faire aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout à fait un solide examen critique qui est fait de ce qui est fait à l'étranger. On essaie comme si on essaie plutôt de faire notre indépendance par procuration, un peu de manière compensatoire. C'est souvent l'impression que j'ai.
Ouh là là, quelle grande phrase historique, Pierre-Norris. On va terminer là-dessus, mais ça va nous permettre de rebondir sur plein d'autres chroniques par la suite, à l'avenir. Merci beaucoup, Pierre. À dans deux semaines.
Oui, à dans deux semaines.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, d'abord, merci à Daniel Fortin à la régie. Demain, nous parlerons de Sainte-Catherine de Suède. Voilà, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.